48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e MAG de 48 FM avec de nouveau trois invités et aujourd'hui Yaël en modératrice. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Alors pour ce nouveau MAG, tout d'abord, nous allons parler agriculture avec Julien Tufféry, le président des jeunes agriculteurs de la Lozère. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors nous allons évoquer avec vous les résultats de la Chambre d'agriculture et ce nouveau mandat pour 6 ans où les agriculteurs vous ont placé, vous et la FDSEA, en tête du scrutin. Nous évoquerons également l'agriculture en Lozère de manière plus globale. Gilles Trochossec est également là, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au sein de la Fédération des chasseurs de la Lozère et vous avez un projet de réintroduction du chamois. Vous avez lancé une étude de faisabilité en 2012 dont les résultats sont désormais connus et nous en parlerons lors de cette émission. Et enfin, nous terminerons cette émission avec Yann Baudin de l'association Loz Riders pour faire un point sur le snowpark mis en place sur le Mont Lozère et l'actualité de votre association. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors avec 46,86% des voix, Julien Tufféry, vous avez gagné le droit de commencer cette émission. Merci d'être là dans une semaine chargée avec l'installation de la Chambre d'agriculture de la Lozère ce jeudi, le salon de l'agriculture qui va commencer. Alors pas trop pris en ce moment ?
Ben, pris, on est pris depuis quelques temps, puisque la campagne a été très active. Et puis aujourd'hui, on prépare donc dans la session d'installation de la Chambre d'agriculture qui aura lieu jeudi. Et puis, bien sûr, le Salon de l'agriculture la semaine prochaine, qui est un événement important pour l'agriculture lozérienne aussi.
Alors, vous avez, avec la liste FDSEA, remporté cette élection à la Chambre d'agriculture avec un écart plus conséquent qu'il y a 6 ans. Comment peut-on expliquer ça ?
Alors, en fait, nous progressons de façon constante depuis 18 ans. Aujourd'hui, c'est le fruit du travail, c'est le fruit aussi d'une équipe rajeunie, puisque nous sommes la seule équipe JFDSEA à s'être présentée aux élections de la Chambre d'agriculture, à avoir dans ses rangs 50% de jeunes agriculteurs. Donc je crois que le renouvellement et le dynamisme est lié aux jeunes agriculteurs en particulier. Et donc là, sur ce point-là, c'est peut-être aussi une des clés de la réussite. Mais il y a aussi tout le travail qui a été fait par l'ancienne mandature de la Chambre d'agriculture, puisque nous avons une Chambre d'agriculture à Lozère qui a très peu de moyens, puisque l'impôt qui est lié, qui la finance, est le plus faible de France, et pourtant dans lesquels les prestations ne sont pas du tout au rabais. Et justement, les agriculteurs sont assez bien suivi à rapport des finances de la Chambre d'agriculture.
Il faut aussi remarquer que 75% des exploitants agricoles se sont déplacés. C'est un chiffre assez haut par rapport à l'ensemble des autres élections sur toute la France.
Alors, je crois que nous sommes le deuxième département en ce qui concerne le taux de participation à ces élections de Chambre d'agriculture. Alors, la Lozère est régulièrement en haut des podiums au niveau du taux de participation pour toutes les élections. En particulier pour l'agriculture, les agriculteurs se sentent investis. Et puis, la campagne a été très active de notre part, mais aussi de la part de nos concurrents sur le terrain, ce qui fait qu'il y a une émulation qui s'est créée et que les gens ont voté, quoi.
Yaël, tu veux intervenir ?
Oui. Non, j'écoutais, je trouvais ça très, très intéressant. Je me posais juste la question, quand vous dites jeunes agriculteurs, ce sont des agriculteurs qui sont jeunes au niveau de l'âge ou c'est des jeunes agriculteurs qui s'installent et qui sont nouveaux dans le...
Alors nous sommes, il y a une particularité dans l'agriculture, c'est que nous avons un syndicat de jeunes, ce qui dans les autres branches n'est pas forcément le cas, d'ailleurs n'est pas le cas. Nous sommes, je crois, la seule branche où on a un syndicat jeune. Donc les jeunes agriculteurs, le principe, il est le suivant, c'est que nous avons comme adhérents, les jeunes qui sont dans les lycées agricoles peuvent être adhérents chez nous, les jeunes qui veulent s'installer, les jeunes qui sont salariés de l'agriculture, mais aussi les jeunes agriculteurs. Et puis, par contre, on a un seuil d'âge, c'est-à-dire qu'en dessous de 35 ans, on ne peut plus faire partie, malheureusement, des jeunes agriculteurs. Voilà.
D'accord. Expliquez-nous les actions que vous mettez en place annuellement.
Donc, en fait, nous, aux jeunes agriculteurs, nous avons plusieurs biais, mais on a un axe qui nous intéresse particulièrement, c'est la communication envers le grand public pour vulgariser l'agriculture et puis pour la rendre plus facile à comprendre. Donc on travaille on fait des actions sur le terrain, on fait des foires au niveau local dans tous les cantons. Je crois qu'on a fait 15 ou 16 manifestations l'année dernière à Malgeville, Fournelles. On est présent dans tous les cantons, dans quasiment tous les cantons. On a des centres cantonaux des jeunes agriculteurs dans presque tous les cantons qui organisent des actions, des lotos, des belotes. On a agi aussi dans des associations caritatives. On a agi pour le Téléthon, on a agi dernièrement pour les Miki, avec la Journée nationale des Miki, nous avons été partenaires. Donc voilà toutes les actions que nous faisons. Puis aussi, nous faisons tout un travail pour la défense des agriculteurs et de la défense des jeunes agriculteurs en particulier. Et ainsi qu'un travail de reconnaissance de la Lozère au niveau national. C'est-à-dire que nous avons organisé en 2011 et en 2010 deux sessions nationales des jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que nous avons organisé en 2010 une session nationale de la montagne. C'est-à-dire tous les jeunes agriculteurs responsables montagne de toute la France se sont réunis en Lozère. Et puis l'année dernière, nous avons organisé la session installation des jeunes agriculteurs, qui est une session qui recoupe tous les responsables d'installation de toute la France. Et à cette occasion-là, nous avons reçu le ministre de l'Agriculture, qui n'était pas encore ministre, Stéphane Le Foll. Et jusqu'à il y a quelques jours, c'était le seul membre du gouvernement qui s'était déplacé dernièrement à Lozère. Voilà.
D'accord.
Ça permet de se remobiliser, de se questionner, de trouver des solutions, toutes ces manifestations ?
Ça permet tout d'abord de se faire rencontrer les gens entre eux, de créer du lien social, parce que dans les campagnes, il y a de moins en moins de monde. Ça, c'est bon, c'est pas la fatalité. Nous, on essaye de faire des choses pour que les campagnes soient vivantes. Donc, ça permet de créer du lien entre les jeunes et ça permet de les mobiliser autour de projets constructifs pour construire des équipes soudées et qui durent souvent dans le temps après les 35 ans. Voilà.
Vous travaillez également, bien sûr, à l'installation de jeunes agriculteurs.
Donc nous sommes le seul syndicat, c'est un peu notre leitmotiv, l'installation des jeunes agriculteurs. Et puis, si on a eu des bons résultats des élections chambre, c'est aussi le fruit d'un travail sur l'installation. Aujourd'hui, en Lozère, nous sommes le premier département de la région Languedoc-Roussillon en termes de renouvellement de génération. Ce qu'on appelle renouvellement de génération, c'est le nombre de départs à retraite par rapport au nombre d'installations. Donc nous prenons une installation, donc on a chez les jeunes agriculteurs le point info installation qui permet à toutes les personnes qui veulent s'installer, c'est un peu le lien pour toutes les personnes qui veulent s'installer pour connaître les démarches à faire. Et donc ce point info installation installe des jeunes et on a un parcours à l'installation qui est un petit peu compliqué mais qui prouve aujourd'hui ses fruits puisque 95% des jeunes qu'on a installés grâce au parcours à l'installation sont encore agriculteurs au bout de 10 ans. Et ça, dans les entreprises, c'est un taux qui est inespéré. Donc souvent, on se fait critiquer sur notre parcours d'installation qui est très compliqué. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, mais on met aux jeunes on lui donne toutes les cartes pour qu'il arrive à réussir le mieux possible. Et je crois que quand on arrive à un résultat de 95% de réussite, on peut dire qu'on a réussi.
Oui, c'est énorme. Combien de jeunes vous avez installés, par exemple, en 2012, si on a à peu près les chiffres ?
On installe à peu près une cinquantaine de jeunes par an, grâce au parcours aidé. Donc, il faut savoir qu'on installe aussi les jeunes de moins de 40 ans, hein, c'est-à-dire qu'en dessous de 40 ans, c'est pas tout à fait le même modèle. Et puis, nous, ce qu'on demande aux jeunes qui veulent s'installer en agriculture aujourd'hui, c'est trois choses simples. La première, c'est d'avoir un diplôme niveau 4, niveau bac. Parce qu'aujourd'hui, pour être un agriculteur, il ne faut pas être le dernier des idiots. Il faut avoir une compétence dans la gestion d'entreprise et puis dans l'agriculture, dans l'agronomie, dans l'agriculture. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à dégager un revenu, puisque les agriculteurs doivent être dans la société et pas en marge de la société. Ça, on le dit souvent. Les agriculteurs ont trop été souvent en marge de la société. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils travaillent aujourd'hui. On essaye au maximum qu'ils aient des revenus qui leur permettent de vivre dans la société, qu'ils vivent la même vie que leurs contemporains. Et la troisième chose, c'est qu'ils aient moins de 40 ans. Parce que bon, on estime que c'est l'avenir est aux jeunes un peu. Voilà.
Le point info installation, on peut le retrouver où ?
Alors le point info installation, il est en fait c'est un appel d'offres en fait c'est une mission publique qui a été confiée aux jeunes agriculteurs par appel d'offres. Nous avons à la commission départementale d'orientation agricole recueilli la majorité des suffrages pour que les jeunes agriculteurs s'occupent du point info installation. Et il est situé dans nos locaux, 27 avenue Foch, à Mende, aux anciennes casernes. Voilà.
Merci.
Comment a évolué le métier sur la dernière décennie ? Est-ce que c'est un métier qui est plus dur qu'avant, plus, je dirais entre guillemets, plus facile avec tout ce qui est machinisation, etc. Comment voyez-vous cette évolution ?
Le matériel a permis de faciliter le travail des agriculteurs. Mais aujourd'hui, le phénomène qu'on trouve, c'est qu'il y a de plus en plus d'endettement des exploitations. Parce que tout ce matériel nécessaire à l'agriculture, il est nécessaire, il a fait du bien, mais il coûte de plus en plus d'argent. Donc on essaye aussi de trouver des solutions pour acheter le matériel en commun. D'ailleurs, le trésorier des jeunes agriculteurs, Sylvain Chevalier, d'ailleurs président de la Fédération des CUMA. Donc on essaye de trouver des solutions pour économiser, mais aujourd'hui, en agriculture de Lozère, il y a des bâtiments en élevage. L'agriculture de Lozère, c'est beaucoup de l'élevage. C'est presque 15 ou 18% de l'élevage. Et en élevage, il faut des moyens de production assez importants. Du foncier, des bâtiments. Et ces bâtiments et ce foncier et ce matériel coûtent beaucoup d'argent. Et l'endettement des exploitations est un frein pour leur développement économique.
Oui, je me rappelle quand je suis arrivé il y a 10 ans en Lozère, on parlait du regroupement d'exploitations, comme l'avenir de la filière, se regrouper pour être plus fort, l'extension des exploitations. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ?
Alors, les GAEC, pour nous, sont une. Les GAEC, qui sont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui sont un regroupement de plusieurs exploitations, sont pour nous aujourd'hui un bon moyen de diminuer les frais. Le problème des GAEC, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a dans les GAEC plusieurs associés, souvent des plus jeunes et des moins jeunes, et que les moins jeunes partent à retraite. Il est difficile pour les associés restants de trouver un nouvel associé. Et c'est tout l'enjeu de notre prochaine mandature aux chambres d'agriculture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que demain, les installations des jeunes agriculteurs, elles se feront moins en installation individuelle, mais plus en société, parce qu'il y a aujourd'hui des exploitations tout à fait viables et tout à fait performantes qui ne trouvent pas d'associés pour les pérenniser. Ça devient tout à fait difficile pour les associés restants.
Justement, j'allais vous demander quels étaient les axes de travail pour ces 6 ans. Donc ça en fait partie. Il y a quoi encore ?
Nous comptons travailler sur plusieurs points. L'installation, puisque avant, jusqu'à il y a 2 ans, l'installation n'était pas une mission de la Chambre d'agriculture. La loi d'orientation agricole d'il y a 2 ans a changé ça, donc on va travailler sur l'installation. On va travailler aussi sur donc toute cette histoire de GAEC et tout ça, sur la technique agricole, parce que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les agriculteurs doivent être de plus en plus techniques, que ce soit au niveau des productions animales ou des productions végétales. On n'a pas droit à l'erreur, parce que les capitaux investis sont très importants et il faut arriver à rembourser ces emprunts au jour voulu. Et puis, nous allons travailler aussi sur les énergies renouvelables, en particulier, plus plein d'autres axes que nous allons... Mais les énergies renouvelables nous semblent être... Il nous faut étudier, là, il faut que la Lozère soit de plus en plus engagée dans ces filières-là. Voilà.
Et vous arrivez à un moment aussi charnière de l'agriculture avec la nouvelle PAC qui arrive. Qui est en renégociation, c'est que certains pays européens veulent voir les aides aux agriculteurs français baisser. Où en est-on exactement ?
Alors, avant que vous répondiez, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que c'est la PAC ?
Donc la politique agricole commune qui revient pour 2013, 2017 ou 2020 ?
Oui. Alors la politique agricole commune, il faut d'abord savoir d'où elle vient. Et c'est bien d'en parler, la politique agricole commune, on entend souvent parler. Alors aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est la seule politique qui est menée au niveau communautaire. L'agriculture, depuis très longtemps, est la seule politique qui est menée entre tous les États membres. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de mettre en avant l'élevage. Parce que les revenus des éleveurs ont diminué de façon très importante. Et donc, nous voulons que l'accent soit mis sur l'aide aux producteurs, aux productions d'élevage. Voilà. Donc, voilà.
Et l'élevage de montagne, notamment.
Donc l'élevage de montagne, évidemment. Nous, aujourd'hui, en Lozère, nous avons une aide pour les agriculteurs. Il faut bien comprendre pourquoi aussi les agriculteurs ont des aides. C'est parce que les prix des produits, il faut savoir qu'un agriculteur, quand il vend du lait ou de la viande, le vend à perte. Ça veut dire qu'une entreprise agricole, n'importe laquelle qu'elle soit, à 90% de nouveau, en Lozère, si elle n'avait pas les aides, elle ne pourrait même pas survivre, subsister. C'est-à-dire que l'agriculteur ne pourrait tout juste acheter les fourrages et l'aliment et le gasoil pour son tracteur. Voilà. Donc ça, ça permet aux consommateurs français et européens d'avoir déjà à manger, hein, parce qu'on n'a pas toujours eu à manger, puis il y a certains pays qui n'ont pas toujours à manger et qui ne sont pas très loin de chez nous. Donc on a à manger des produits en quantité suffisante et de qualité suffisante. L'affaire Spanghero nous a montré qu'en quelques jours, nous avons trouvé le bouc émissaire de cette fraude. Et ce n'est pas les agriculteurs français qui sont les auteurs de cette fraude-là, puisque nous, on est irréprochables là-dessus. Mais ça a permis donc de nourrir la population et à des prix corrects. Voilà. Donc aujourd'hui, les agriculteurs touchent des aides. Il y en a une qui est liée au handicap naturel. Ça s'appelle l'ICHN. L'indemnité compensatoire des handicaps naturels. Ce sont toutes les zones en difficulté, c'est-à-dire les zones de moyenne montagne ou de montagne. Et donc aujourd'hui, un de nos chantiers pour la prochaine mandature aux chambres d'agriculture aussi, c'est de faire évoluer ce critère-là, puisque la Lozère est coupée en 2 zones. Une zone au sud dite de montagne sèche et une zone au nord dite de montagne non sèche. Et donc le montant de cette indemnité n'est pas le même quand on se situe au sud de la Lozère ou au nord. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est une harmonisation vers le haut de ces zones, à savoir que toute la Lozère soit classée à montagne sèche. Et nous comptons bien y arriver. Nous avons par le passé accueilli le responsable ICHN au ministère de l'Agriculture. Nous avons été reçus par le nouveau cabinet du ministre pour en parler. Nous allons maintenant passer à la deuxième vitesse, il faut absolument qu'on y arrive parce qu'on a les critères qui permettent de dire avec le réchauffement climatique que toute la Lozère pourrait être classée en montagne sèche. Donc aujourd'hui, les critères sont bons, tout le monde est d'accord, tous les élus lozériens, je crois, sont d'accord pour nous soutenir. Le problème, c'est les financements, il nous faut trouver une enveloppe de 4 millions d'euros et en ces temps de crise, c'est assez difficile.
Et oui, et vous parliez du problème de vente à perte. C'est vrai que c'est un problème qu'on soulève depuis des années et des années. C'est quoi le problème ? C'est la grande distribution qui ne joue pas le jeu ?
En particulier, la grande distribution qui ne joue pas le jeu. Pour ce qui est, par exemple, de la viande bovine, on a aujourd'hui un abatteur qui s'appelle Bigard qui abat plus de 50% des animaux qu'on produit en France. On peut bien comprendre qu'il gère les prix comme il veut. Eh bien, nous, au GIA et à la FNSEA, nous avons une filière spécialisée qui s'appelle la Fédération nationale bovine. La Fédération nationale bovine a dit on ne peut pas agir, enfin, a essayé d'agir sur les prix par rapport à Bigard. On n'y est pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de développer un GIE à exportation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exporte une partie de la viande et donne la viande lozérienne en Algérie et vers les pays du Maghreb, qui sont des pays, avec la révolution, le printemps arabe, ça a permis de libérer ces pays-là, et aujourd'hui, ils veulent consommer aussi de la viande. Et aujourd'hui, le marché du Maghreb rémunère mieux que le marché français, et ça a permis aussi au marché français d'augmenter, parce que sinon, Bigard n'avait plus d'animaux pour tuer dans ses ateliers. Voilà.
D'accord. Au niveau du lait, c'est le même problème ?
Alors, au niveau du lait, c'est compliqué aussi. On a aujourd'hui, nous, aux jeunes agriculteurs et à la FDSEA, nous avons voulu que l'agriculture lozérienne puisse avoir des volumes supplémentaires. Avant, le quota laitier était géré au niveau départemental et depuis 1984, l'agriculture lozérienne souffrait d'un quota laitier tout à fait faible. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, qu'on ne traite pas du lait comme on veut. Il y a des quotas laitiers et donc ils étaient tout à fait faibles. Et donc ils étaient gérés au niveau départemental et vu qu'on gérait presque rien, on gérait un peu la misère. Nous avons décidé, la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les GIA, nous avons voté à la CDOA pour intégrer la région Sud-Est-Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous gérerons les quotas entre la région Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et donc la région toulousaine, entre autres, est une région en sous-production de lait. Et aujourd'hui, ça a permis de dégager des litrages supplémentaires pour la Lozère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur lozérien qui veut faire du lait, il peut faire du lait grâce au travail de la FDSEA, des GIA et de la Chambre d'agriculture. Et puis nous travaillons sur un deuxième axe. Le premier, c'est le volume. Et le deuxième, c'est les prix. Et nous avons lancé l'association des producteurs de lait de montagne, dont le vice-président est lozérien, M. Boulet, a créé une marque de lait de montagne, donc qui regroupe toutes les montagnes de France, pour valoriser plus spécialement le lait produit à l'herbe et dans nos montagnes de Lozère, de Haute-Loire ou d'ailleurs.
Voilà, la solution, ça ne serait pas ça, le qualitatif, les AOC, tout ce qui va avec ?
Alors là, Lozère a une chance inouïe, c'est d'avoir des filières de qualité dans pratiquement toutes les productions. Que ce soit, on entendait pendant la campagne qu'il fallait développer les filières de qualité en Lozère. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on développe les filières de qualité en Lozère, mais surtout, il faut qu'on fasse vivre les existantes. Aujourd'hui, que ce soit en viande bovine, fleur d'Aubrac, bœuf famille Aubrac, en agneau, élevel, en porc, que ce soit dans beaucoup de productions, en veau de Lozère, le principal problème, c'est le manque de production. Aujourd'hui, nos entreprises lozériennes de transformation, notamment de viande, ont les marchés, mais ne peuvent pas fournir les marchés car les agriculteurs lozériens ne produisent pas assez dans ces filières de qualité. Voilà. Donc il est là aujourd'hui le problème. Et qu'on soit aujourd'hui éleveur, bon alors certaines filières ont plus de difficultés, mais qu'on vende du lait de brebis, du lait de chèvre, de la vache, du mouton, on a une filière de qualité pour l'éleveur qui a envie, mais il faut encore qu'il ait envie, hein. Ça, c'est. On ne peut pas forcer les agriculteurs à faire de la qualité. Mais pour l'éleveur qui a envie, il a une filière de qualité qui correspond à chacun de ses produits s'il le désire.
D'accord. Gilles, Yann, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
Non, c'est bon.
C'est assez pointu comme domaine.
Non, c'est très
sûr.
Clair. Les explications en plus sont très très claires et c'est vrai que ça permet de bien comprendre.
Oui, absolument. D'ailleurs, Julien, vous parlez un peu comme un président de chambre d'agriculture, d'où ma question. Est-ce que vous allez vous présenter ce jeudi ?
Alors, on ne le dit pas, mais certainement, nous la GIA et la FEDE, nous allons présenter un candidat jeudi aux élections de chambre d'agriculture et je vais vous le dire sur 48 FM, le candidat que nous aurons sera une femme. Voilà.
D'accord, au moins, ça le mérite d'être clair. Voilà, un scoop aujourd'hui sur 48 FM. Merci Julien, on va passer à...
Merci beaucoup.
De toute façon, vous pouvez intervenir sur les autres sujets. Un petit jeu ?
Oui, parce que nous avons des places à gagner pour le spectacle de ce jeudi qui s'appelle « Courir les rues et sa bande ». Donc, on va vous poser une question assez simple. Julien est président de quel syndicat ? On va vous aider un petit peu. Est-ce qu'il s'agit du MODEF, des jeunes agriculteurs ou de la Confédération paysanne ? Pour cela, vous avez un numéro, le 04 66 31 59 68, et vous répondez à la question « Julien est président de quel syndicat ?»
Et le téléphone qui sonne, on va faire une pause musicale avec Brisa Rocher et Whistle.
FM Le Mag.
Et voilà, nous voilà repartis pour cette seconde émission. Bravo à Anne-Lise qui vient de gagner 2 places donc pour le concert de jeudi. Il y aura un nouveau jeu après, cette petite rubrique pour parler de la Fédération des chasseurs avec Gilles Trochesec.
Bonjour.
Voilà, donc vous avez mené en 2012 vous avez réalisé une étude de faisabilité concernant la réintroduction du chamois dans le département. Alors tout simplement, déjà, première question, pourquoi cette étude ?
Alors cette étude, elle vient de différentes volontés. Tout d'abord, on observe depuis plus d'une dizaine d'années du chamois dans le département. Alors il est observé de façon sporadique. Il y a juste certains individus qui l'ont vu. On en a vu notamment du côté du Mont-Lozère, mais aussi un peu dans tout le département. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune population qui s'est vraiment développée. C'était juste des individus qui se baladaient. Donc l'idée de l'étude, justement, c'était de voir si ces individus pouvaient fonder une population. Il se trouve que ça paraît assez difficile, je l'expliquerai après. Pour ce qui est des autres, de ce qui nous a poussé aussi à développer, à faire cette étude, c'était le contexte du projet Ardéchois. Il y a un projet Ardéchois qui s'est fait concernant la réintroduction du chamois en Ardèche, Donc ça nous a un petit peu interrogé. Au début, on n'y croyait pas forcément. Il se trouve que ce projet Ardéchois, il montrait que le milieu était favorable. Donc on s'est dit que pourquoi pas en Lozère. Et la troisième chose, c'est que le chamois était présent en Lozère jusqu'à... il était présent jusqu'au XVIIIe siècle dans les gorges du Tarn notamment.
Et on peut expliquer sa disparition ?
Voilà. Alors les causes de disparition, on ne les connaît pas totalement. On imagine, et pour avoir interrogé de nombreux experts, il se trouve que c'est certainement dû d'avoir une surpopulation des campagnes, qui fait que ça marche pour tous les ongulés sauvages. Donc l'alimentation était moins importante. Et ensuite, il y a eu une chasse qui n'était pas réglementée, bien sûr, dans les années au XVIIIe et XVIIe siècle, ce qui a engendré la disparition. Maintenant, depuis qu'il y a des plans de chasse, on s'aperçoit que le mouflon est revenu, y compris en moyenne montagne et même à très très basse altitude. Donc en fait, le chamois, on a une idée chamois haute montagne, parce que justement, il s'est fait chasser et qu'il s'est réfugié dans ces montagnes-là. Maintenant, depuis qu'il y a des plans de chasse, depuis une trentaine d'années, le chamois est en train de coloniser l'ensemble des petits massifs français. Je pense notamment du côté des Alpes, où il était présent au début dans la partie interne des Alpes. Il est maintenant présent dans les Préalpes et jusqu'au côté, du côté de la mer, dans le Var. Il est à 200 mètres d'altitude. Voilà, il est sur le massif de la Sainte-Baume, dans des montagnes très sèches. Et on voit que les méditerranéennes, on voit qu'ils s'adaptent très bien. Ce n'est pas un souci. Ce qu'il lui faut au chamois, c'est de la pente et du rocher, des zones escarpées.
Eh bien, ça tombe bien, on en a en Lozère de la pente et du rocher. Vous expliquez dans cette étude que pour diverses raisons, si on ne donne pas de coup de pouce, le retour spontané de l'espèce en Lozère semble difficilement envisageable dans les prochaines décennies.
Alors déjà pour expliquer, les chamois qui ont été aperçus en Lozère de sources sûres, notamment du côté du mont Lozère, etc. Il se trouve qu'ils ont deux origines. La première origine, ça, certainement des monts du Cantal, où le chamois est déjà présent. Il est présent depuis les années 80, suite à une réintroduction de la part de la Fédération des chasseurs du Cantal. Et la deuxième origine, c'est l'arc alpin. Il se trouve qu'il y a des chamois qui étaient observés du côté ardéchois, en bordure du Rhône, et qui traversaient le Rhône. Et donc, c'est pas un problème que du côté est de la Lozère, ces chamois viennent de là. Pour ce qui est des causes qui empêchent son retour spontané, notamment, ce sont les infrastructures. Parce que du côté Cantal, il y a l'autoroute A75. Et du côté des Alpes, il y a bien sûr toutes les infrastructures de la vallée du Rhône. Ensuite, il faut savoir que les milieux lozériens qui paraissent favorables aux chamois, ils sont présents plutôt dans le sud du département. Alors même si le Cantal est limitrophe avec la Lozère, les milieux vraiment favorables, à savoir les gorges du Tarn et la partie est du mont Lozère, sont éloignés à plus de 100 km. Donc il y a du chamois qui est retrouvé par exemple sur l'Aubrac. Le problème c'est que le milieu n'est pas favorable et donc aucune population ne peut s'y installer réellement. Voilà, pour les causes...
D'accord.
Vous parliez des causes justement qui font que c'est difficile, mais est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient la réintroduction plus facilement de cette espèce ?
De façon naturelle ou...
De façon générale ?
Donc en fait, ce que j'explique, c'est de façon spontanée. Il est très difficile que l'espèce se réimplante. Donc l'idée, ça serait de réaliser une opération de réintroduction. Donc on en est juste à la phase de... On a fait la phase d'analyse et maintenant de concertation. Pour réintroduire le chamois, il faut lâcher environ une vingtaine d'individus pour espérer qu'il y ait un noyau solide qui se fonde. Après, ça ne va pas engendrer de gêne envers les autres activités. Et notamment, il n'y a pas de problème de dérangement. Le chamois est une espèce, comme on dit, qui est plastique, qui s'adapte très facilement.
Qui est plastique.
Elle s'adapte facilement au milieu. Et donc, il n'y aura pas de restrictions. Je pense notamment au niveau de la chasse ou des activités de loisirs sur la zone où le chamois sera réimplanté.
Ou de l'agriculture, ouais, mais on y reviendra peut-être après sur ça. Peut-être expliquer la différence entre, on en parlait avant que l'émission commence, entre le chamois et le mouflon.
Alors c'est deux espèces complètement différentes. Au niveau morphologique, de toute façon, alors il faut savoir que le mouflon, il est présent aussi dans les gorges du Tarn, suite à une opération de lâcher par la fédé de chasse. Alors le chamois, c'est deux espèces qui n'ont pas la même écologie, donc qui n'ont pas le même mode alimentaire.
Il y en a un qui est plastique.
Voilà.
Et l'autre est caoutchouc.
Alors c'est vrai que c'est deux grands ongulés qui s'adaptent, qui sont présents dans des milieux rupestres, dans des milieux rocheux, mais c'est deux espèces très différentes. Le mouflon, il va avoir des cornes qui s'enroulent, qui sont assez longues. Le chamois a des cornes beaucoup plus petites. Et vous avez juste à voir sur Internet, c'est deux espèces complètement différentes.
Julien, une question peut-être ?
Moi, la question que je me poserais, c'est sur la réintroduction du chamois. Nous, en agriculture, on est assez pragmatique. Et avant d'aller faucher le champ d'après, on commence à avoir fini celui qu'on est en train de faucher. Et nous, on trouve qu'il y a aujourd'hui une prolifération de la population de sangliers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse question à poser là-dessus. Et je trouve un peu... Alors, contre toi du tout, ni contre la Fédération des chasseurs, mais qu'on veuille réintroduire de nouvelles espèces alors qu'on ne sait pas gérer celles qu'il y a, ça me paraît un peu antagoniste.
Alors, tout d'abord, la Fédé de chasse, quand même, indemnise les dégâts sangliers. Il faut aussi bien faire la différence entre le chamois et les autres ongulés. Le régime alimentaire est complètement différent. Il se trouve qu'au niveau national, les dégâts qui sont liés au chamois au niveau agricole, ils ne représentent rien. Il y a 4 dossiers qui ont été déposés en 10 ans, qui ne représentent même pas une centaine d'euros. Le chamois, il se cantonne dans les pentes, et essentiellement dans les pentes. Une population de chamois ne pourra pas s'installer en plein milieu du Causse, par exemple. Dans les pentes, c'est les endroits qui sont les moins cultivés. Voilà. Ensuite, la fédération des chasseurs, elle est bien consciente des problèmes qui sont dus aux sangliers. Et elle est bien consciente aussi que le cœur du métier, c'est vrai que le sanglier, c'est une activité très intéressante pour la chasse. Mais c'est aussi, il y a aussi un intérêt de se diversifier. Quoi.
Moi, je reviens un petit peu sur la question de tout à l'heure, mais on a commencé à parler d'une étude. Est-ce que pour cette étude, pour la réintroduction du chamois, justement, vous avez fait appel à des spécialistes ?
Oui, tout à fait, ouais. L'étude, elle a fait appel à une vingtaine de spécialistes, c'est le bon mot, tout en France, partout en France, notamment aux agents de l'ONCFS, du CNERA Fonds de Montagne, qui sont spécialisés sur ces questions-là, qui ont donné un avis favorable pour les gorges du Tarn et pour la bordure est du Mont-Lozère. Elle a fait aussi appel au CNRS d'écologie alpine, mais aussi à des techniciens de terrain de fédé de chasse dans les autres départements et aussi à des techniciens dans les parcs nationaux, régionaux, etc. Pour ce qui est des impacts que peut déclarer le chamois, on a vraiment essayé de tenir en compte que l'impact que peut provoquer un chamois sur, par exemple, en haute montagne, on ne peut pas comparer cela à la Lozère. Donc on s'est rendu sur des milieux et on a contacté les acteurs locaux dans des zones où, par exemple dans le Cantal, où il est présent à 500 mètres d'altitude aux environs d'Aurillac, dans des zones où le contexte socio-économique est le même que la Lozère, mais aussi dans les baronnies provençales, on est allé, et pour vraiment évaluer ces dégâts. Et il se trouve qu'il n'y en a pas, quoi, qui sont très très faibles, et tous les acteurs locaux le disent. Quoi, voilà.
Non, on me dit qu'il ne va pas y avoir de dégâts, donc il y a peut-être un intérêt. Donc quel est l'intérêt peut-être cynégétique, écologique ou touristique pour le territoire qui pourrait être lié à cette réintroduction ?
Mais l'intérêt, il est énorme. Comme vous le disiez, il est tout d'abord cynégétique. Alors, comme je le disais tout à l'heure...
Oui, on peut peut-être définir un peu...
L'intérêt cynégétique pour ceux qui ne
connaissent pas. L'intérêt pour les chasseurs, tout simplement.
D'accord.
Il faut savoir qu'on est bien conscient que la chasse aux sangliers et aux petits gibiers comme le lièvre, etc., est vraiment la chasse la plus ancrée en Lozère. Il n'est pas question de changer ces habitudes-là. Par contre, on se rend compte que c'est quand même important qu'il y ait une diversité de gibier, et grand gibier, notamment en cas de problèmes de maladies de population sur d'autres espèces. Et on se rend compte aussi que dans les autres départements où le nombre de chasseurs n'a pas diminué ou a même augmenté, c'est des départements qui avaient une forte quantité une diversité d'espèces gibier. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le chamois se chasse à l'approche. Donc, c'est un nouveau mode de chasse qui est peu présent en Lozère, mis à part la chasse au mouflon.
C'est quoi la chasse à l'approche ?
Alors, en Lozère, ce qui se chasse, c'est souvent la chasse au chien courant. Donc, avec des chiens, la chasse à l'approche, c'est le chasseur qui part avec son fusil le matin et qui approche le gibier. Il ne se sert pas de chien, quoi.
D'accord.
Et pour le tuer, voilà. Donc ce mode de chasse, il est quand même bien différent, et on se rend compte qu'il attire beaucoup de nouveaux chasseurs, et on le voit dans les autres départements, parce que c'est une chasse qui est déjà un petit peu plus physique, il faut y aller quand même dans les montagnes.
Mais là, on va réintroduire du chamois pour le tirer, en fait.
Alors, l'idée, c'est d'avoir une population pérenne et viable de chamois. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années, voire les 10 premières années, c'est à voir selon comment se développe la population, il ne sera pas chassé. Et ensuite, il sera effectivement, il sera chassé, mais avec des plans de chasse
ça sera régulé,
très régulés. Ces plans de chasse se feront en accord avec le monde de l'agriculture, avec les forestiers et tous les autres acteurs locaux. Le but étant que les populations soient régulées convenablement.
D'accord. Voilà. Au niveau du monde de l'agriculture, donc il n'y a aucun problème pour l'agro-pastoralisme. Il reste sur ces pans rocheux et il ne devrait pas y avoir de soucis pour les exploitations.
Et il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a juste à aller se rendre notamment dans le Cantal. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème. Ou alors ils sont très ponctuels. Mais globalement, il n'y a pas de soucis. Quoi.
Justement,
le régime alimentaire du chamois... je le redis, il est très différent, par exemple, de celui du sanglier.
Et du loup.
Et
il attaque pas les ovins.
Mais aussi celui du mouflon. Le chamois, c'est un herbivore qui peut éventuellement s'attaquer aux ligneux, donc aux rameaux frais de l'année et aux feuilles, etc. Par période de neige, quand le manteau neigeux est trop épais pour manger de l'herbe. Mais son régime, on dit qu'il est cueilleur, c'est-à-dire qu'il n'est pas opportuniste. Il ne va pas avoir le même régime alimentaire qu'une brebis. C'est pas parce qu'on m'a fait la réflexion, un chamois, ça pèse une quarantaine de kilos. Ce n'est pas parce que ça pèse une quarantaine de kilos que ça va avoir le même impact qu'un autre animal. Voilà, il est cueilleur, il va cueillir un petit peu par-ci, par-là. Voilà, il n'a pas le même métabolisme. Alors juste pour finir pour les intérêts. Le premier intérêt, c'est l'intérêt cynégétique. Le deuxième, bien sûr, il est touristique. La Lozère, c'est vrai qu'on est dans un département de pleine nature. On a la chance d'avoir, notamment du côté des gorges du Tarn, des vautours, une diversité d'espèces. Donc, je le disais, on a du mouflon, on a du sanglier, du chevreuil. Donc là, on aurait éventuellement du chamois, on a aussi le cerf. Donc on serait dans un département qui aurait les 5 plus gros ongulés, les 5 grands ongulés sauvages, et aussi les 5 vautours. Alors pour le département, il y a vraiment, je pense, une carte à jouer. Et c'est vrai que c'est un animal quand même qu'on s'aperçoit, par exemple, dans les Bauges, du côté des Alpes, qui attire beaucoup, beaucoup de gens. Il y aurait des choses à faire à ce niveau.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a un retour sur, par exemple, les Vosges, le Cantal ? Est-ce que ça amène vraiment du monde, ces espèces-là ?
Alors, tout à fait. Il y a rien qu'à se rendre, par exemple, sur le sud du Puy-Marie, dans les monts du Cantal, où il y a des AMM, donc des brevets d'État, accompagnateurs moyens de montagne, qui organisent des thématiques chamois, qui amènent des gens et qui travaillent sur cette espèce-là pour observer cette espèce. Ça apporte aussi une image, je l'ai dit, ce n'est pas un animal qui est inhérent à la haute montagne, mais ça apporte une image montagne pour le département. Et donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. Voilà. Il n'y a rien qu'à en parler autour, avec tous les acteurs touristiques dans les autres départements qui, justement, sont très friands de ce thème-là.
C'est intéressant de réintroduire le chamois, mis à part le problème que vous souleviez du sanglier. Vous pensez que c'est bien pour un département comme la Lozère ?
Alors, nous, on n'est pas spécialement contre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de réintroduire de nouvelles espèces, il faut savoir gérer les siennes. C'est comme si c'est, pour moi, c'est un peu difficile. La deuxième chose que j'aimerais souligner, on parlait tout à l'heure du loup pour plaisanter, c'est pas du tout une plaisanterie, le loup. Le loup est un fléau pour l'agriculture et pour la chasse aussi, je le sais. C'est vraiment le problème, ça sera peut-être certainement, malheureusement, un des problèmes numéro un de l'agriculture lozérienne dans les années qui viennent, et il faut prendre ça pas du tout à la légère.
Donc, pour la question du loup, il faut pas faire d'amalgame. L'étude s'est penchée aussi, on a interrogé les spécialistes là-dessus sur deux questions. D'abord, est-ce que le chamois pourrait être une source supplémentaire pour faire revenir le loup? Il se trouve que, étant donné la quantité d'ongulés sauvages qu'il y a déjà, ce n'est pas, et le CNERA du Fonds de Montagne le confirme, ce n'est pas une source supplémentaire. Et deuxièmement, ça vous concerne moins, mais le chamois a été réintroduit dans des zones en France où il y avait du loup, ça n'a pas empêché non plus sa réintroduction. Faut savoir que le loup, il est quand même plutôt opportuniste et il va d'abord se
manger. Et parce que j'allais vous dire, aussi bien, il va manger le mouflon, et il va laisser tranquille les ovins et...
Mais je crois que, d'après, je ne connais pas beaucoup le chamois, mais d'après les connaissances que j'ai, je crois qu'il court plus vite que le mouton.
Je pense aussi.
Ouais. Ça, pour bien dire que le chamois n'est pas un élément supplémentaire d'attrait du loup.
Oui. Voilà. Peut-être pour finir, côté agenda, maintenant, vous allez amplifier donc cette phase de concertation auprès de l'ensemble des acteurs territoriaux, c'est ça ?
Oui, alors cette phase, elle a attaqué là, depuis le début de l'année 2013. En ce moment même, on est en train de voir chaque acteur locaux concerné par ce projet pour discuter sur ce projet. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte les remarques de chacun. Tout d'abord, pour améliorer l'étude, s'il y a des choses qui n'ont pas été vues. Et ensuite, que tout le monde participe à ce projet. Alors, on ne parle pas encore de réintroduction, on est loin de là. L'idée, c'est de voir s'il y a une motivation sur le territoire. Et si tout le monde est d'accord, on pourra après penser aux objectifs opérationnels. Il faut savoir aussi que une fois, si jamais il y a des lâchés, comme je le disais tout à l'heure, la population sera gérée avec tous les acteurs du territoire. Quoi. Alors pour les dates, il va y avoir une première réunion qui va être faite, qui est organisée début mars à Saint-Inimi, qui va...
Vous allez vous demander où elle sera, cette réunion.
Voilà, à Saint-Inimi, dans les gorges du Tarn, à la mairie. Donc, cette date-là, elle va concerner juste les acteurs locaux. Elle n'est pas ouverte au grand public. Et ensuite, il y aura des informations, des soirées d'information pour le grand public. Et en fait, la date du début mars, là, c'est une première réunion pour mettre en place un comité de pilotage qui, après, se réunira 2-3 fois par an pour voir l'évolution du projet.
Si des personnes ont été intéressées et veulent après se joindre aux réunions publiques, elles peuvent trouver les dates où et...
Alors certainement sur le site de la Fédération des chasseurs. Je pense qu'il y aura des annonces aussi dans les journaux locaux, Lozère Nouvelle, Midi Libre. Mais il n'y a pas encore de date fixée pour tout ce qui est réunion d'information. Pour l'instant, on est à la concertation avec les acteurs.
D'accord, et chez nous aussi, on suivra cette étude et donc les réunions qui vont se suivre. Yael, un petit jeu pour gagner de nouvelles places ?
Allez, on va faire un petit jeu, donc toujours pour gagner des places pour le spectacle qui a lieu ce jeudi au Théâtre de Mende à 20h30 qui s'appelle « Courir les rues et sa bande ». Donc on va vous poser une question assez simple. Quel est l'animal que la Fédération de chasse compte réintroduire en Lozère ? Est-ce qu'il s'agit du loup, du saumon ou du chamois ? Pour ça, un numéro de téléphone 04 66 31 59 68.
Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour gagner des places donc pour ce concert de jazz. Allez, on va faire une nouvelle pause avant la troisième partie avec Noir Désir à ton étoile. Et d'ailleurs, Noir Désir qui sera le thème de Rock'n'Roll Diaries de mardi prochain à 20h pétante.
Dans l'ombre en fond. bien d'autres que moi. Sache que je n'oublie rien.
FM Le Mag.
Allez, la troisième et dernière partie de l'émission avec donc Yann Baudin de l'association Los Riders. Donc peut-être pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre association ?
Alors déjà, peut-être commencer par l'histoire de l'association. Donc elle a débuté par une bande de potes qui font du ski, du snowboard freestyle. Elle a commencé donc sur les pistes du Mont Lozère. On était plusieurs amis à faire quelques bosses. Donc on prenait, comme la plupart des jeunes aujourd'hui, on prenait les pelles aux remontées mécaniques. Et on faisait des petites bosses, voilà, pour s'amuser, pour passer la journée, pour rigoler entre copains. Et puis après, on a lancé l'hypothèse, pourquoi pas, de monter un projet, de contacter la direction de la station. Et de constituer un véritable snowpark, donc pour montrer à tout le monde un peu cette activité, donc le ski, le snowboard freestyle, aux clients de la station, pour développer ce sport au niveau de la Lozère. Parce qu'il faut savoir qu'on est aujourd'hui la seule association pratiquement du Massif Central. Donc il y a également la FFSS, la Free Sensi Style, qui elle œuvre au niveau du Sensi, donc en Auvergne. Nous, en Lozère, on est la seule association. Et donc, suite à cette volonté, on a monté un projet avec plusieurs personnes. On a contacté la direction de la station. Pardon, et la station nous a répondu favorablement. On a créé donc un partenariat avec la station. On a ensuite fait l'acquisition de modules. Donc, à savoir, les modules de snowpark, ce sont des barres de slide, des barres de... afin de glisser dessus. Et suite à cela, on a commencé vraiment à monter, à bétonner ce projet. On a fait la recherche de partenaires, tout ça de subventions. Et bon, on a commencé véritablement à entrer dans le projet en novembre 2010, donc suite à la création de l'association Los Riders. En novembre 2010, on était une petite quinzaine. Aujourd'hui, à savoir, on est une trentaine. En novembre 2010, donc on attendait la neige. On a attendu la neige toute la saison 2011. Il n'y a pas eu de neige sur le Mont-Lozère. Donc la station n'a pas pu ouvrir et donc nous, on n'a pas pu ouvrir également. La saison 2012 a fait le même problème au niveau de l'enneigement de la station. Il n'y a pas eu du tout de neige sur la station. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez problématique, cette question de l'enneigement sur toutes les stations lozériennes. D'ailleurs, on peut en parler au niveau de l'Aigoual ou au niveau de Nasbinal. Voilà, sur toutes les stations lozériennes, l'enneigement fait défaut.
On en attend pour ce week-end, non ?
Tout à fait, la neige devrait faire son retour ce week-end. On reste quand même, on prend quand même du recul par rapport aux prévisions parce qu'à force de trop espérer, de trop attendre cette neige, on l'attend, mais elle ne vient toujours pas. Donc on reste prudent quand même. Apparemment, elle devrait arriver. Donc on espère justement de bon augure pour les vacances de février. Et voilà.
Vous parliez de snow freestyle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors le snow freestyle, donc ça a pour but, par exemple, on prend une planche de surf, donc de surf, de snowboard, et ensuite on réalise des figures sur les modules, donc comme je le disais, des barres de slide afin de glisser dessus, ou bien sur des bosses, faire des figures, voilà.
Justement, vous êtes en train de nous dire qu'on peut faire des figures, donc vous avez installé le snowpark au Mont-Lozère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on peut y retrouver dans ce snowpark ?
Alors dans ce snowpark, comme je vous le disais, on a fait l'acquisition de modules, donc de snowpark, donc des modules de professionnels qu'on pourra retrouver par exemple dans les stations des Alpes ou même du Lioran, dans les stations traditionnelles. On a également fabriqué, donc les membres ont eux-mêmes fabriqué des modules. Ces modules, à savoir qu'on a fait l'acquisition de modules pour les débutants, donc accessibles par toutes les personnes qui souhaitent juste glisser, s'initier au freestyle.
Concrètement, c'est quoi un module ? Vous expliquiez des rampes, c'est quoi ?
C'est assez difficile à expliquer, mais un module, c'est constitué de métal, de ferraille, bon, c'est pas du tout dangereux parce que c'est sécurisé, c'est arrondi, il n'y a pas d'angle du tout, ni de visserie pour pas qu'il y ait d'accident, justement. Donc il faut vraiment éloigner ce stéréotype d'accident en snowpark, c'est pas du tout le cas. Les snowparks sont vraiment bien sécurisés.
Et justement, il y a des formateurs ou des secouristes sur place au cas où il y a un problème ou pour expliquer comment prendre pour surtout les débutants ?
Tout à fait. Alors, c'est le but de l'association. L'association, elle est constituée de bénévoles, donc de shapers. C'est le terme anglais, il n'y a pas encore de terme français qui est apparu en France. C'est-à-dire un peu comme des pisteurs, un peu comme des façonneurs de neige, donc, qui encadrent le snowpark, qui sécurisent, qui conseillent, qui animent le snowpark et qui seront à l'écoute de toutes les personnes qui veulent essayer.
Justement, j'allais vous poser pour dire, vous êtes présent, il y a des heures d'ouverture du snowpark ?
Alors nous, on est ouvert comme la station de 9h à 17h, non-stop sur toute la journée. On est ouvert les mercredis après-midi lorsque nous pouvons, parce qu'à savoir également que les shapers sont des étudiants, donc on a tous un travail, on est des bénévoles, donc on ne peut pas ouvrir non plus tout le temps. On est ouvert par contre tous les week-ends et également toutes les vacances, donc là il restera les vacances de février. Et voilà, donc on est ouvert de 9h à 17h, ouvert à tout le monde.
Voilà.
Oui, vas-y.
Non, j'allais vous demander, c'est ouvert à tout le monde, mais à partir de quel âge ? Est-ce qu'il faut savoir skier avant de venir ? Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'il y a une école de snow ?
Parce qu'on sait faire du skate ou des choses comme ça. Voilà.
Tout à fait. Donc déjà, il faut quand même savoir pratiquer un peu le ski ou le snowboard. Nous, on est implanté sur une piste rouge, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quand même une piste de moyenne difficulté, donc il faut quand même savoir maîtriser un peu la glisse. Après, nous, on a ouvert déjà un week-end sur le Mont-Lozère, on a eu tout public, on a eu des familles, des jeunes enfants d'une dizaine d'années, on a eu des plus âgés d'une cinquantaine, une soixantaine d'années qui sont venus nous voir, qui sont venus se présenter pour découvrir justement cette nouvelle activité, toute nouvelle en Lozère et sur le Mont-Lozère.
Gilles, Julien, vous faites du ski, du snow, ça vous arrive, vous êtes adepte ou pas du tout ?
Ça nous arrive, moi je fais un petit peu de ski, effectivement, oui. Pas encore le snowboard, mais pourquoi pas ?
Mais il faut venir essayer. C'est sympa. Et en plus, il y a une bonne ambiance. Tous les jeunes sont là pour rigoler, pour conseiller. Il n'y a pas du tout de limite. C'est pas du tout fermé. C'est plutôt ouvert à tout le monde. On attend tout le monde pour vous faire partager notre nouvelle activité. Pour développer tout ça.
Gilles ?
Oui, moi je suis plus ski que snow, mais pourquoi pas.
Justement, cette discipline arrive à prendre en Lozère ?
Alors, au niveau de l'enneigement, ça nous a fait un peu défaut. C'est un peu le problème. Par exemple, rien qu'une. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pratiquants, réguliers, vu que le.
On pourrait évaluer à peu près le nombre de snowboarders ? Ou pas ?
Alors, c'est très difficile.
Du moins lozérien.
Comme je regardais, par exemple, un reportage qui a été fait par Midi Libre sur les snowkiters.
Il raconte n'importe quoi, Midi Libre. Faut les croire.
Donc, il disait que c'était quand même très difficile de trouver le nombre de pratiquants. Nous, c'est la même chose. On ne peut pas trouver le nombre de pratiquants sur la Lozère.
Oui, c'est l'interview du dimanche de Julien Mello qui fait du snowkite en partenariat avec 48FM. C'est pas n'importe quoi. L'émission, on peut la récupérer sur nos ondes, 48FM.org. Yael ?
Oui, moi, vous parliez d'une association. Donc, pour qu'une association vive, on sait qu'il faut des sponsors. Est-ce que vous êtes à la recherche de sponsors ? Est-ce que vous en avez déjà ?
Tout à fait. Alors déjà, je souhaitais remercier nos sponsors. Nos sponsors comme par exemple le Sport 2000, McDonald's, Kérosène et tous les autres qui se reconnaîtront. On est encore à la recherche de sponsors parce que quand même cette activité est assez onéreuse, à savoir qu'un module de snowpark coûte environ 1000 euros. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans le besoin de financement.
D'accord, ça fait une heure, cette émission est à présent terminée. Peut-être un mot pour clôturer, Julien ?
Alors, un mot pour clôturer, moi je dirais simplement je donnerai rendez-vous au prochain événement que les jeunes agriculteurs organisent. Ce sera le 16 mars, un des prochains événements, puisque nous sommes présents aussi au Centre de l'agriculture, mais le 16 mars, les jeunes agriculteurs de Langogne, Châteauneuf-Langogne, organise la foire Grasque en partenariat avec la mairie de Langogne, qui est un grand événement de l'élevage pour ce secteur de la Lozère et puis pour la Margerie d'Est. Donc, un événement très important.
Merci de nous avoir invités. Et si les auditeurs veulent plus d'informations concernant cette étude, ils peuvent appeler à la FEDE, on leur en parler, ça sera avec plaisir.
Peut-être vous pouvez donner le numéro de téléphone.
Est-ce que je l'ai ? 04 66 65 75 85.
Ouais, peut-être finir aussi avec les contacts de Loz Rider.
Alors vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lozriders.fr, également sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et voilà, remercier également l'équipe de 48FM qui est très accueillante.
Yael, pour terminer ?
Oui, pour terminer, on va se quitter avec un petit jeu. Donc toujours des places à gagner pour le spectacle de ce jeudi au Théâtre de Mende à 20h30, donc qui s'appelle « Courir les rues et sa bande », spectacle de jazz chanson française. Donc on va vous poser la dernière question d'aujourd'hui, soyez bien à l'écoute. Où est installé le snowpark ? Donc, je répète, où est installé le snowpark ? Pour cela, vous pouvez nous répondre par mail sur redac@48fm.org ou sur Facebook.
Facebook 48FM Mende-Lozère. Voilà, cette émission sera rediffusée ce jeudi à 18h10 et vous la retrouverez dès demain sur notre site internet en podcast sur 48fm.org.
Merci.
Merci.